RFI, grand reportage.
Cette nuit-là, j'ai vu des fractures particulièrement graves. Tout était cassé jusqu'aux doigts, sur lesquels les passeurs avaient frappé. Toutes ces fractures étaient dues à leur tentative de s'échapper de ce bateau. Mais ils n'ont pas réussi.
Le magazine de la rédaction vous emmène au contact de ces migrants rescapés de la traversée meurtrière de la Méditerranée. RFI est allé rencontrer les survivants, ceux qui ont passé des semaines, des mois, parfois des années dans les centres de détention en Libye. Là-bas, ils ont dû tout supporter, humiliation, exploitation, violence extrême, pour certifier les tortures qu'ils ont subies, mais aussi pour guérir les cicatrices qu'elles ont laissées. En Sicile, des professionnels de santé italiens ont appris à mettre des mots sur l'indicible. Migrants en Libye, les traces de la torture. Un grand reportage de Cécile Debarge.
La lumière jaune du plafonnier ferait presque oublier que le soleil est déjà à son zénith. En cette fin de matinée à l'hôpital universitaire de Palerme, dans une salle impersonnelle du bâtiment de médecine légale, au rez-de-chaussée, les volets sont clos.
Tu me montres ? Ok. Une cicatrice ici, une autre ici. D'accord, tu peux continuer.
Antonietta Lanzarone est médecin légiste. Depuis un peu plus d'un an, elle a ouvert une consultation dédiée aux migrants victimes de torture. En face d'elle, de l'autre côté du bureau marron, un Ivoirien de 19 ans dont l'italien courant détaille le long voyage qui l'a amené jusqu'à elle.
En 2010, quand il y a eu la guerre civile, on ne savait pas où aller avec ma mère. Alors elle a dit qu'il fallait qu'on parte dans un village. Elle a dit qu'on devait laisser la ville. Parce que moi, je viens d'Abidjan, d'un quartier qui s'appelle Abobo.
C'est le premier exil d'une longue série. Amadou, qui préfère qu'on lui donne un nom d'emprunt, avait alors 10 ans. Rapidement séparé de sa famille, il vit chez sa petite amie avant de retourner, plus tard, à Abobo, au nord d'Abidjan. À plusieurs reprises, il confie avoir été attaqué par des gangs.
Je dois te poser une question un peu précise. Avec quoi ils t'ont frappé à la main ?
Il y a eu une attaque à la machette qui a laissé de profondes cicatrices sur ses mains, puis une autre à la suite de laquelle il est frappé par une maladie mystique, selon son expression. Aux côtés de la docteure Lanzarone, Valeria Tullio, psychologue, observe chaque réponse d'Amadou.
Je peux te poser une question ? Quand tu as eu cette maladie qui est arrivée juste après l'agression, est-ce qu'il t'arrivait de te sentir faible physiquement ou de ne pas réussir à te lever du lit ou bien de mal dormir la nuit ?
Alité, il trouve la force de partir quelques semaines plus tard lorsqu'un ami lui avance de l'argent pour aller se faire soigner en Europe. Le voyage commence au Burkina Faso puis au Niger où il est frappé sur le dos une première fois par les passeurs avant de faire route vers la Libye.
Nous, les grands, ils nous ont mis dans une toute petite voiture. Parce qu'il y a une voiture spéciale pour traverser le désert. Et ensuite, pour rentrer en Libye, ce sont des voitures normales. Les trafiquants nous mettaient dans le coffre, les uns sur les autres, et c'est pour ça que j'ai des douleurs aux genoux. On arrivait à peine à respirer.
Il passe ensuite un mois en Libye, enfermé dans une prison informelle où il est torturé.
Il te donne un téléphone pour appeler tes parents et pour leur demander de l'argent rapidement. Ils te demandent s'ils ont l'argent et si ce n'est pas le cas, ils te donnent une autre journée et ils te font rappeler.
La pratique est courante. Des 93 patients qui ont été auscultés, 55% avaient subi des mauvais traitements dans leur pays d'origine et 91% lors de leur passage en Libye. Afin d'établir avec précision l'origine des blessures et des cicatrices présentes sur le corps du jeune Ivoirien, la docteure poursuit son interrogatoire qui dure au total près de 2 heures, suivant rigoureusement les règles établies par le protocole d'Istanbul, également appelé « manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ».
Est-ce que tu as été victime d'autres violences en Libye ? Tu as été frappée ? Tu as des lésions, des cicatrices qui remontent à la Libye, un peu comme celles que tu as sur les mains.
Le jeune homme semblerait presque s'excuser.
Les plus grosses cicatrices qui me restent remontent à la Côte d'Ivoire, parce que les Libyens, ils te frappent avec un tube sur le dos, sur les pieds aussi.
Cette torture, c'est la falanga, aussi appelée falaka. Elle consiste à attacher quelqu'un par les chevilles et à le frapper de manière continue avec des bâtons ou des tubes de plastique rigides, de la plante des pieds au talon. Couplée à la privation d'eau et de nourriture, c'est une pratique systématique dans les prisons libyennes, selon tous les professionnels de santé rencontrés. Amadou, lui, a finalement embarqué pour l'Europe, pas vraiment conscient de ce qu'il attendait pour traverser la Méditerranée.
Je ne savais pas que c'était un canot pneumatique. Ils ont demandé à des gens qui n'y connaissaient rien de le guider. J'ai tout risqué. Aujourd'hui, je me demande comment j'ai fait pour arriver ici, en Italie. On n'avait pas de pilote, ils prenaient quelqu'un qui venait d'un pays où il y a la mer, par exemple la Gambie. On était plus de 130 personnes à bord.
Amadou arrive finalement en août 2016 sur les côtes siciliennes dans le port d'Augusta, tout à l'est, après le sauvetage de son embarcation par un navire dont il ne garde aucun souvenir. Alors que le récit du jeune homme prend fin, Valeria Tullio, la psychologue, l'interroge.
Et maintenant que tu es ici, la nuit, tu arrives à bien dormir ou ça t'arrive de faire des cauchemars ?
Les conséquences des tortures ou des traitements dégradants sont aussi psychologiques.
Quand j'étais dans le premier centre d'accueil, à Noto, c'était difficile, surtout la nuit, et je pleurais tous les matins. Ensuite, à Trapani aussi. Maintenant, à Palerme, ça va, je me suis habitué.
Parfois, à l'occasion d'un détail, comme un pétard qui explose ou un feu d'artifice, ce sont des pans entiers de son histoire qui reviennent à l'esprit d'Amadou.
Quand j'entends des feux d'artifice, j'ai toujours un peu peur. Ça me donne l'impression d'être en Côte d'Ivoire ou en Libye.
Sur l'ensemble des entretiens, 60% des patients présentent des troubles psychologiques ou psychiatriques et 77% des problèmes de somatisation. La condition d'Amadou n'a malheureusement rien d'une exception.
Ormai è diventato importante, Pietro si fa attendere.
Intanto accogliamo Pietro Bartolo. Un
applauso. Pietro Bartolo, médecin sur l'île de Lampedusa, en est l'inlassable témoin.
Je n'ai jamais attrapé une seule maladie en 28 ans et je suis toujours là. Pas parce que je suis Superman, mais parce qu'ils n'amènent pas de maladies infectieuses. Bien sûr, ils sont parfois malades, toutes ces maladies parfois graves dues aux conditions du voyage ou bien à la torture.
Le 27 mai dernier, il a été élu député européen pour le Parti démocrate, un choix qu'il explique par sa fatigue de ne rien voir changer.
Les gens sont émus, les gens pleurent, mais ensuite il ne se passe rien. Alors je me suis dit, ce qu'il reste pour changer les choses, c'est la politique. Parce que c'est la politique qui décide de faire des accords avec la Libye ou pas. Or nous, on a bel et bien fait des accords avec eux, avec ces criminels.
Lui aussi témoigne des sévices subis en Libye par les migrants, mais aussi de conditions traversées parfois bien pires que celles décrites par Amadou, comme lorsqu'une nuit arrivent les passagers d'un bateau secouru en mer et qui comptait déjà son lot de cadavres. Parti d'un port libyen, le bateau était plein à craquer, jusque la soute du bateau de laquelle les passagers ont voulu sortir pour prendre l'air. Lorsque le bateau a tangué, les passeurs se sont assis sur la trappe de la soute. La suite, c'est Pietro Bartolo qui la raconte lorsqu'il a dû réaliser le premier examen cadavérique des migrants asphyxiés dans la soute.
Cette nuit-là, j'ai vu des fractures particulièrement graves. Tout était cassé jusqu'aux doigts, sur lesquels les passeurs avaient frappé. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est qu'ils n'avaient même plus d'ongles. Ils n'avaient plus leur bout des doigts, parce que toutes ces fractures étaient dues à leur tentative de s'échapper de ce bateau. Mais ils n'ont pas réussi.
À Palerme, c'est en autopsiant les corps ramenés par les bateaux de sauvetage qu'est né le projet de consultation dédié aux migrants victimes de torture, comme le rappelle Antonietta Lanzarone.
On voyait sur les corps des migrants morts des lésions liées aux conditions de la traversée, mais aussi des lésions plus anciennes. En réfléchissant à partir de ces observations, on s'est dit que, probablement, on trouverait sur les corps de ceux encore en vie les mêmes lésions que celles relevées sur les corps des morts.
Les stesses, comunque, sovrapponibili lesioni che vedevamo sui corpi dei cadaveri.
Au terme de la consultation, le patient reçoit un rapport qui peut être ajouté à sa demande d'asile pour certifier les tortures dont il fait mention dans son récit. Dans un contexte de durcissement des conditions requises pour obtenir l'asile, chaque document compte. Au mois de juin 2019, selon les derniers chiffres publiés par le ministère de l'Intérieur italien, le taux de rejet des demandes d'asile est de 82%.
Avec l'ouverture de la consultation, nous avons eu l'opportunité d'écouter certains témoignages et aussi d'observer très concrètement les lésions qui sont les marques des tortures libyennes, ou plus exactement, celles qui ont lieu dans les centres de détention en Libye.
À la Falanga, évoquée par Ramadou dans son entretien, s'ajoutent parfois des tortures moins connues, comme celle que lui a détaillée l'un de ses patients.
Il devait rester pieds nus sur le sable brûlant pour un laps de temps limité. Je ne suis plus tout à fait sûre, mais il me semble que c'était 30 minutes. Il le laisse comme ça jusqu'à l'extrême limite, jusqu'à ce que ce ne soit plus supportable. La raison est simple. C'est pour pouvoir recommencer ensuite, car sinon ils mourraient tous.
Un autre se présente à la consultation avec la plante des pieds entièrement décolorée après qu'on l'a contraint, en prison en Libye, à marcher sur un sol mouillé.
Il disait que c'était de l'eau, mais ça ne pouvait pas être de l'eau, vu les lésions qu'il avait, parce qu'on remarque de vraies brûlures chimiques sur la plante des pieds et sur les bords de son pied aussi.
Laterale mediale dei piedi e alla pianta dei piedi.
Tabou ultime, les violences sexuelles. 20% des patients de la consultation de la docteure Lanzarone en ont été victimes, dont la totalité des 12 femmes rencontrées. Les chiffres concernant les hommes pourraient être sous-estimés, explique la légiste, qui n'exclut pas que le fait qu'elle soit une femme rende plus difficile la libération de la parole chez les hommes.
En ce qui concerne les violences sexuelles, on sait que les femmes sont contraintes à se prostituer et que les hommes, dans certains cas, sont sodomisés. Et pourtant, d'un point de vue strictement médico-légal, les signes visibles sont rares. Et s'ils le sont, ils ne sont jamais spécifiques.
C'est la limite de la consultation médico-légale. Certaines cicatrices sont invisibles, elles n'en sont pas moins profondes et douloureuses.
Grazie, arrivederci.
Arrivederci.
Pour tenter de les soigner, l'association MEDU, Médecins pour les droits de l'homme, a mis sur pied depuis 2014 le projet UNTU, qui propose un accompagnement psychologique et psychiatrique aux migrants victimes de tortures ou de traitements dégradants.
Je m'appelle Giuseppe Canella, je suis psychiatre et psychothérapeute. Je travaille pour MEDU en Sicile.
Dans un centre médical de Ragusa, dans l'est de la Sicile, le médecin, entouré d'une équipe de 2 psychologues, 2 médiateurs culturels et 3 bénévoles, a reçu près de 500 patients.
Ce qu'on constate en Libye, c'est que les prisons formelles et informelles existent encore, et qu'au cours des années, les tortures et les violences restent les mêmes, malheureusement, des tortures physiques, psychologiques et sexuelles. Donc les sévices que subissent les migrants sont toujours là.
Toujours la même et pourtant rien n'est fait, s'emporte le coordinateur du projet UNTU pour la Sicile, Simone Cavallone.
Aujourd'hui, plus encore qu'en 2015, nous sommes coupables parce qu'aujourd'hui, nous avons toute l'information sur ce qui se passe. Mais au niveau de l'Italie, de l'Europe et de la communauté internationale, il y a une absence totale d'intervention pour mettre un terme à tout cela.
L'objectif de ces tortures est toujours le même, explique son collègue psychiatre, obtenir de l'argent des migrants.
J'exerce des violences sur toi, je t'humilie, je viole tes frontières, y compris sexuellement, parce que je dois te terroriser, parce qu'au moment où je te donnerai un téléphone pour que tu appelles tes proches dans ton pays d'origine ou en Europe, quand tu passes ce coup de fil, celui qui t'écoute de l'autre côté doit vraiment comprendre que tu es dans des conditions dramatiques.
Le défi pour les membres du projet est immense, comme le résume Giuseppe Canella.
Lors du travail clinique, nous recréons une situation au cours de laquelle la personne victime de traumatisme revit l'expérience d'un retour dans le groupe des humains, des Homo sapiens. Elle n'est plus dans celui des bourreaux qu'elle a rencontré sur son chemin.
revenir au monde des humains pour oublier la barbarie, un processus clinique long auquel les patients n'arrivent parfois qu'après plusieurs années quand ils y arrivent.
Parmi les personnes arrivées ces dernières années, on en a encore qui ne vont pas bien. Aujourd'hui, on a recueilli le témoignage d'un jeune homme qui a subi des violences au Kurdistan irakien, mais aussi lors de son passage en Libye. Ce n'est pas facile pour les migrants qui arrivent de se dire et de comprendre qu'ils ont l'opportunité d'exprimer leur malaise et leur mal-être.
Ce Kurde irakien est arrivé au cours de l'année 2018. Il souffre aujourd'hui de syndrome de stress post-traumatique. Giuseppe Canella liste les autres symptômes fréquemment rencontrés chez les patients.
L'insomnie.
Insomnie, cauchemars, pensées obsessives, comportement d'évitement, par exemple le fait d'être en retrait, ou bien il y a des symptômes dissociatifs, parce que, par exemple, au moment où cette personne parle avec toi, elle a des scènes, des expériences vécues qui lui reviennent, et ce sont des traumatismes extrêmes qui peuvent avoir été causés par le voyage, par la prison, l'enlèvement, ou bien un naufrage.
La prigione, il rapimento o un naufragio.
Prendre en charge ces patients demande de nombreuses précautions, explique le coordinateur du projet Simone Cavallone.
L'un des éléments à prendre en compte quand on travaille avec des survivants de torture et de violences extrêmes, c'est la réviviscence du traumatisme qu'on appelle aussi le traumatisme secondaire. Ce sont des situations de la vie quotidienne qui sont tout à fait inoffensives pour quelqu'un, disons, de normal, mais qui, pour un migrant qui revient de la Libye et qui a vécu des violences extrêmes, peuvent déclencher des réactions très graves du point de vue de la santé mentale.
Ces situations de la vie quotidienne, ça peut être simplement voir des barbelés ou une structure militaire. Cela peut aussi être le fait de revivre une situation d'enfermement, comme cela a été le cas tout l'été à bord des bateaux de sauvetage des ONG, souvent bloqués une dizaine ou une quinzaine de jours en mer, avant qu'un port ne soit finalement désigné pour faire débarquer les migrants secourus en mer. Un choix politique fièrement assumé par le ministre de l'Intérieur italien de l'époque, Matteo Salvini, et qui ignore complètement la souffrance des personnes à bord, dénonce Giuseppe Canella.
Voir ces derniers mois un ministre de la République qui prend plaisir ou fait le dur en bloquant en mer des embarcations avec à bord des personnes qui ont potentiellement traversé l'enfer libyen et qui ont subi des choses horribles, c'est vraiment inacceptable et incroyable.
Plus encore en sachant que ces derniers mois, la détérioration du climat politique libyen a rendu encore plus précaires les conditions de vie des migrants enfermés dans les centres de rétention, explique Simone Cavallone.
Il faut ajouter que la situation pour le moment est pour le moins changeante. Les groupes armés font la loi, or ce sont eux qui dirigent une grande partie de ces centres, aussi bien informels que formels, du gouvernement de libération. Et on a vu ces vidéos de cette offensive il y a quelques mois. Le centre est bombardé, tout le monde s'échappe et crie. Alors on peut imaginer quel est le destin réservé à ces personnes.
Combien sont-ils pris au piège de la Libye ? Bien plus que les migrants qui arrivent aujourd'hui sur les côtes européennes, affirme Simone Cavallone.
Vu les politiques du gouvernement italien depuis 2017, les accords avec la Libye, la diminution des arrivées, nos chiffres ont baissé drastiquement. En réalité, ça veut juste dire qu'on ferme les yeux sur ce qui se passe parce que les personnes qui n'arrivent plus en Europe, en réalité, elles restent piégées sur le territoire libyen. Et on estime à environ 600-700 000 migrants qui s'y trouvent. Mais on n'a pas de chiffres officiels, ce sont des estimations de l'ONU.
Au début du mois d'août, le ministre libyen de l'Intérieur a annoncé la fermeture prochaine de 3 des plus grands centres de détention pour migrants du pays. Une annonce qui fait suite au bombardement du camp de Tajoura dans la banlieue de Tripoli et qui a fait au moins 44 morts et 130 blessés au mois de juillet.
Migrants en Libye, les traces de la torture. Un grand reportage de Cécile Debarge, réalisation Eva Piedel. Un magazine à retrouver sur le site de RFI.